Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique éphémérite de l'émission Un jour dans l'histoire. L'émission d'aujourd'hui revient sur les offensives géantes de l'armée rouge qui aboutirent à la reddition de Berlin le 2 mai 1945. En fait, notre invité, Jean Lopez, s'est livré à l'analyse de ces grandes offensives de la victoire dans un ouvrage intitulé Berlin, publié dans la collection Campagnes et stratégies chez Economica. Bonjour Monsieur Lopez.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du conflit germano-soviétique. Vous étiez d'ailleurs venu au micro de Canal Académie pour présenter vos deux précédents ouvrages, Kursk, les 40 jours qui ont ruiné la Wehrmacht, et Stalingrad, la bataille au bord du gouffre. Vous êtes par ailleurs rédacteur en chef d'un magazine de vulgarisation scientifique. Mais nous allons parler maintenant donc de Berlin, les offensives géantes de l'armée rouge. Et alors dans votre ouvrage, vous commencez, Jean Lopez, par montrer finalement l'importance que Staline attacha à ce dernier assaut final. Et vous revenez sur un épisode assez douloureux qui est l'échec de Nemersdorf. Pouvez-vous finalement rappeler ce qui s'est passé le 21 octobre 1944 à Nemersdorf et expliquer en quoi cela conditionna les offensives suivantes?
Le petit village de Nemersdorf, un village de 600 habitants, se trouve en Prusse orientale et il a été le lieu d'une percée d'un corps blindé soviétique, percée qui potentiellement contenait une grande victoire soviétique qui leur aurait permis d'occuper la totalité de la Prusse orientale et qui aurait probablement changé beaucoup la campagne qui suivra. Pour des raisons assez étonnantes et assez extraordinaires, la brigade qui se trouvait là n'a pas bougé et restait sourde à tous les appels de son commandement. Et il se trouve que les Allemands ont repris cette bourgade au bout d'une semaine, infligeant un revers très important au 3e front de Biélorussie du maréchal Tcherniakovski. Et à ce moment-là, la vérité s'est faite jour, c'est que les Soviétiques se sont livrés à des crimes épouvantables contre la population civile, et ce sont ces crimes, des viols, des pillages, des incendies, une ivresse générale qui explique que cette brigade blindée d'élite, pourtant, puisque c'était une brigade de la garde, n'est pas bougée, n'est pas exploité la percée. Ce qui n'est au fond qu'une goutte d'eau dans cet océan d'horreur qu'a été le conflit germano-soviétique est très important parce que ça signe un échec énorme de Staline, dans la mesure où ça va raidir la volonté de combat des Allemands, et surtout dans la mesure où ça annonce la principale faiblesse de l'armée rouge dans les 6 mois qui suivent, qui n'est pas une faiblesse de nature militaire, mais qui est une faiblesse morale.
Oui, nous allons y venir, mais donc finalement, Nemersdorf va pousser Staline à vouloir une revanche sur l'Allemagne.
Oui, oui, enfin, les raisons de la revanche datent du 22 juin 1941. Elles sont nombreuses, elles sont très profondes, elles sont douloureuses pour l'ensemble des peuples soviétiques. Mais si j'ai commencé l'ouvrage par ce prologue, c'est pour annoncer au lecteur qu'en dehors de toutes les catégories militaires, il est une catégorie qui est celle du ressort moral de l'armée, que l'armée soviétique a perdu en 1944 à Nemersdorf.
Alors, avant de plonger dans le conflit, vous présentez d'abord les deux adversaires. Et afin de souligner l'inégalité de la lutte, alors commençons par le Reich. Dans quelle situation est-il politiquement et militairement en 1945?
Au mois de janvier 1945, évidemment, le Troisième Reich n'a plus aucune perspective de victoire. En réalité, il est privé de toute perspective de victoire depuis son offensive manquée à Kursk en 1943. Il est attaqué sur deux fronts. Les alliés occidentaux se battent encore en Ardennes en essayant de se remettre du coup que les Allemands leur ont porté avec l'offensive de décembre 1944. À l'Est, les Soviétiques sont grosso modo sur la Vistule, c'est-à-dire dans la partie orientale de l'ancienne Pologne. Ce que je montre dans cet ouvrage, c'est que les Allemands, l'armée allemande a encore de forts beaux restes. Elle est capable de mettre en place beaucoup plus d'unités et de les remplacer beaucoup plus vite qu'on ne l'a pensé. Le matériel est d'excellente qualité. Et il coule encore à flot en janvier. Ce ne sera plus le cas au mois de mars 1945, mais en janvier, au moment où débute cet ouvrage, il y a encore en face de l'armée soviétique un adversaire très sérieux, extrêmement expérimenté, et je dirais même le plus expérimenté qu'on ait probablement jamais vu dans les guerres du XXe siècle, et qui dispose d'une supériorité tactique qui est encore, me semble-t-il, assez nette sur les Soviétiques, au moins jusqu'au niveau de la division, en dessous du niveau de la division. Au-delà, ça n'est plus vrai du tout. Mais cet adversaire est encore redoutable.
Et que dire du moral des hommes? Parce que là aussi, il y a un effet Neimersdorf, finalement.
Côté allemand, les choses sont beaucoup plus ambiguës. Des recherches allemandes qui ont été publiées l'année dernière, il y a même eu un colloque qui s'est tenu, ont montré que les choses sont très variées. On ne trouve pas cet effondrement du moral qu'on a eu dans l'armée impériale à l'automne 1918. Il y a un raidissement assez général face aux soviétiques. Et il y a un affaiblissement assez général de la volonté de combattre face aux Occidentaux. Les choses sont assez tranchées de ce point de vue-là. Mais même sur le front oriental, il y a un élément qu'ont montré les chercheurs allemands et qu'on avait à peu près négligé jusque-là, c'est l'intensité de la répression contre les soldats allemands exercée par leurs supérieurs. C'est une répression qui n'a peut-être pas l'ampleur de celle que Staline a exercée contre ses propres hommes en 1942, mais qui est très sérieuse, qui se traduit par plusieurs milliers d'exécutions, par la création d'unités ressemblant à ces bataillons pénaux soviétiques qu'on envoyait à la mort. Il y a un véritable durcissement de la Wehrmacht, il y a une coercition qui, d'après les spécialistes allemands, serait dans ses effets à peu près égale à... Il y a trois tiers dans cette composante de résistance allemande. Il y a la coercition, il y a la peur du russe, peur terrible, et il y a l'idéologie nazie qui continue à fonctionner, en tout cas parmi les jeunes cadres et dans la partie la plus jeune de la troupe.
La croyance en Hitler.
Toujours.
Jusqu'à la mort du chef.
Jusqu'après la mort d'Hitler. Mmh. C'est assez extraordinaire. Hitler mort, il y a encore dans le gouvernement de Nitz qui va survivre de trois semaines même d'un peu plus de trois semaines à la mort d'Hitler et même à la capitulation du Reich, il y a un affichage ouvert, public, de tous les principaux signes nazis. Le portrait du Führer se trouve encore dans le dos de Dönitz, trois semaines après la reddition des armées allemandes, au vu et au su des commissions militaires alliées. Le nazisme n'a pas été rejeté facilement en Allemagne. Hein. C'est un travail qui va occuper toute la génération après les années 50 et 60. Mais en 45, ça reste un des éléments de la cuirasse morale des soldats allemands, des éléments importants.
Maintenant, passons à l'armée rouge.
Alors, ce qui m'a paru intéressant dans cet ouvrage, dont le principe, encore une fois, est qu'il essaye de voir des événements qui sont déjà connus, car il n'y a pas d'archives nouvelles depuis maintenant 20 à 25 ans. Ce qu'ont livré les Russes au moment de l'effondrement de l'Union soviétique est très pauvre. Et je ne pense pas, vu l'évolution de la Russie poutinienne, qu'on puisse s'attendre à des ouvertures massives d'archives dans les années qui viennent. C'est fort, fort improbable. Il faut quand même que la recherche avance. Donc moi, j'ai revisité un petit peu tout ce qui s'est fait, notamment les mémoires des officiers soviétiques qui ont été abondamment publiés dans les années 60 et 70, qu'on a très, très peu lus en Occident, et également les mémoires des principaux protagonistes allemands. Je les ai relus en déplaçant un peu mes perspectives et en me disant, mais voyons, au fond, cette armée rouge, qui a été dépeinte sous les pires couleurs par son adversaire, pas seulement d'un point de vue moral, mais d'un point de vue militaire, au fond, pourquoi a-t-elle gagné cette guerre? Alors, il y a de multiples facteurs que d'autres ont analysés bien mieux que moi, mais il y en a un que j'ai tenu à mettre en avant, c'est la découverte par les Soviétiques d'une nouvelle pensée militaire. En gros, dans les années 1920 et 1930, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'establishment militaire américain qui s'est largement appuyé sur cette révolution soviétique pour lui-même révolutionner ses propres affaires militaires. Dans les années 20 et 30, donc, les Soviétiques ont procédé à une critique extrêmement serrée de l'expérience de la guerre de 14 et de leur guerre civile entre 1917 et 1921. Et ils ont rejeté ce que j'appellerais le paradigme central de la pensée militaire occidentale qui est rassemblée dans Clausewitz et que les Allemands, au 19e et en 1914-1918, ont mis au centre de leur pratique militaire, qui est le dogme de la destruction. La destruction est l'objectif de la guerre, selon Clausewitz, l'objectif unique, central, et la meilleure façon d'y atteindre, la façon la plus totale de détruire son adversaire, c'est de le détruire physiquement, biologiquement en quelque sorte, par des encerclements. Toute la pensée militaire allemande s'organise autour de l'encerclement. Or, l'encerclement est du niveau de la tactique. Les Allemands ont en quelque sorte déifié la tactique en se disant finalement une guerre se gagne de victoire tactique en victoire tactique, par accumulation et par destruction de l'adversaire. Il n'y a pas besoin de faire plus. Excellence tactique, ça veut dire la victoire. Si les choses étaient ainsi, on comprendrait mal que l'Allemagne ait perdu les deux guerres. Il y a donc quelque chose d'autre. Les Soviétiques ont donc pensé autrement en se disant « Il y a une incompatibilité à penser en même temps la tactique et la stratégie. Ce sont deux niveaux de réalité qui sont beaucoup trop éloignés. Il manque quelque chose entre les deux. Ce quelque chose, ils l'appellent l'art opératif. C'est un intermédiaire. En gros, les batailles, le tactique, forment l'opératif et l'opératif lui-même permet d'atteindre les objectifs déterminés par le stratégique. Ils ont énormément réfléchi à cette question et ils ont été amenés petit à petit à imaginer une armée qui ne rechercherait pas systématiquement la victoire au niveau tactique, mais qui concevrait ses opérations d'une autre façon.
Donc, finalement, en 1945, l'armée rouge est à son top, entre guillemets, si j'ose dire.
Oui, son top de la guerre, elle est évidemment au mieux de sa forme à ce moment-là, même si je montre qu'elle a encore de très sérieuses lacunes et faiblesses. Elle ne sera pas au mieux au niveau doctrinal. Le mieux, c'est à l'époque de Brejnev, probablement, quand les Américains se sont rendus compte que dans une guerre classique, voire classique nucléaire, ils n'avaient aucune chance de l'emporter. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 1945, et ça, c'est vraiment le cœur de mon ouvrage, lors de l'offensive qui va amener les armées soviétiques de la Vistule à l'Oder, à 60 km de Berlin, on a in vivo la démonstration de ce qu'est l'art opératif. Ce qui n'était que théorie dans les années 20 et 30, on le voit agir. C'est ça que j'ai voulu réanalyser.
Et c'est ce que nous allons voir dans une deuxième partie après une courte pause. Merci.
Canal Academy vous propose d'entendre Valéry Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales, une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, nous sommes en compagnie de Jean Lopez, auteur de Berlin, les offensives géantes de l'armée rouge. Nous n'avons pas le temps de regarder dans les détails les opérations, mais on rappelle rapidement que tout commence le 12 janvier 1945, qu'il s'agit pour les Russes de l'assaut final qui doit les mener à la capitale du Reich. Ils se sont fixés 45 jours pour atteindre Berlin, il faudra en tout 2 mois de plus. L'offensive débute donc sur la Vistule, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Alors, quels sont les objectifs de cette offensive et sont-ils atteints facilement ?
Le plan dit des 45 jours, qui est élaboré à Moscou en octobre et novembre 1944, vise à anéantir le Reich nazi en 45 jours. À partir d'une offensive qui aurait démarré le 12 janvier, vous voyez, ça nous amène grosso modo à la fin février. La guerre aurait dû se terminer à la fin février. Les Soviétiques en avaient les moyens, avec cette doctrine dont nous allons dire quelques mots tout à l'heure, je pense, celle de l'art opératif. Et le déroulement de cette extraordinaire offensive Vistule-Oder nous montre qu'ils auraient pu en effet tenir leur pari, c'est-à-dire être à Berlin à la fin février 1945. Ça signifie qu'ils auraient pu être en Allemagne occidentale, pas très loin du Rhin, au mois de mars. Vous imaginez les conséquences, la totalité de l'après-guerre, du destin même de la France, aurait été totalement bouleversée. Or, il se trouve que cet objectif n'a pas été tenu, alors même que l'assaut a été totalement dévastateur et que les armées allemandes entre les Carpates et la Baltique ont été littéralement écrasées. Or, il est intéressant de voir que, à mon avis, si cette offensive n'a pas d'un coup et d'un seul été jusqu'à Berlin, c'est pour deux facteurs. Un facteur qui a déjà été mis en œuvre, qui a déjà été mis en évidence par d'autres, qui est un facteur logistique, même si on l'a quand même très sous-estimé. Je pense qu'en effet, la survenue du printemps, d'un printemps extraordinairement précoce, a transformé la Pologne en un véritable marécage. Les Soviétiques n'avançaient plus. Mais la deuxième chose, et je reviens encore là-dessus, c'est la dissolution morale des unités soviétiques. Vous avez commencé votre interview en parlant de l'effet Nemersdorf. Mais ce qui s'est passé en Silésie, en Poméranie et en Prusse au mois de janvier et février 1945, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. Il n'y a littéralement plus moyen de lancer les unités soviétiques à l'assaut. Elles sont trop occupées à tuer, à piller, à violer. Il y a donc là un facteur humain, un facteur discipline dont les maréchaux soviétiques n'ont pas tenu compte et qui va se retourner contre eux.
Mais finalement, l'armée rouge se heurte aussi à une Wehrmacht qui résiste, puisque la prise de la Poméranie, Silésie...
Elle résiste, mais je dirais que la puissance, l'inertie emmagasinée par le coup qui est lancé sur la Vistule en janvier est tellement énorme que normalement Berlin aurait dû tomber. Résistance de la Wehrmacht ou pas, Berlin aurait dû tomber. Encore une fois, littéralement, sur l'Oder, l'armée soviétique cesse de combattre.
Et le 6 février, il cesse les combats.
Ah, complètement. C'est-à-dire qu'on ne tient plus la troupe. Les généraux parcourent la campagne à la recherche de troupes qui se sont littéralement égayées. Ils ont laissé aux Allemands 3 semaines de répit, qui a permis à cette nouvelle armée allemande, qui est reconstituée en 3 semaines, c'est un véritable miracle d'ailleurs, de se repositionner sur l'Oder et d'attendre la dernière grande offensive, celle du mois d'avril. Mais si vous permettez, je voudrais revenir quand même sur l'art opératif,
oui,
puisque c'est
sûr.
Tout de même le cœur de cet ouvrage. Je disais que les Soviétiques ont exploré, imaginé, inventé un niveau intermédiaire entre tactique et stratégique. Ce niveau, ils l'ont appelé le niveau opératif. Leur grande idée, c'est que la guerre se structure comme un système. C'était une idée qui était très à la mode en biologie et en physique dans les années 20. Et les penseurs soviétiques, Tukhachevski, Isserson, Triandafilov, Varfolomeyev, ont importé ce concept de système à la guerre. Un système, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'éléments qui sont interdépendants. Un système se structure dans l'espace. Il donne des ordres. Il fait circuler des informations à tous ses sous-ensembles. Vous coupez un morceau du système, le système se régénère. Il est plus petit, mais il fonctionne toujours. Donc, si la guerre est un système, à quoi bon chercher la destruction de morceaux du système? Ça laisse le système entier. Lorsque vous avez gardé une bataille par encerclement, qu'avez-vous gagné? Pas grand-chose. Les Allemands en ont fait la cruelle expérience en 1941. Ils ont volé d'encerclement en encerclement sans jamais pouvoir détruire l'adversaire. Donc les Soviétiques ont rejeté cette idée de destruction qu'on doit rechercher systématiquement en réfléchissant à la façon dont se structure un système. Et ils se sont dit, quel est le pire ennemi d'un système? Le pire ennemi d'un système, c'est la dissociation des sous-ensembles. C'est de mettre le système dans l'incapacité de continuer à tenir ses sous-ensembles, à faire circuler l'information, les hommes, la logistique, les slogans politiques, etc. Alors, comment dissocie-t-on un système? Là encore, ils ont fait preuve d'une véritable audace conceptuelle en disant « ne cherchons pas l'encerclement, inventons une nouvelle forme d'unité ». Ils ont appelé le front, en gros c'est notre groupe d'armée, mais structuré, je le montre, de façon très différente d'un groupe d'armée occidentale. Trouvons un véhicule de cette dissociation, ce sera l'armée de tanks, ces 4 armées de tanks qui sont lâchées en janvier 1945, et on leur demande de dissocier, c'est-à-dire de pénétrer le plus loin possible en profondeur. Voilà le grand mot qui est lâché, en profondeur. Et cette pénétration la plus lointaine possible va provoquer une dissociation spontanée du système. Et c'est ce que j'espère avoir montré dans mon ouvrage.
Et c'est ce qui arrive à merveille en janvier 1945. Puisqu'en 17 jours, les fronts, ils ont pénétré en profondeur entre
500 et 600 kilomètres voilà. En 17 jours, sans aucune bataille d'encerclement. Autrement dit, ils arrivent au résultat de la Wehrmacht, que la Wehrmacht a péniblement réussi en juin, juillet et août. Ils y arrivent sans chercher l'encerclement, uniquement par ces pénétrations lointaines. Et le résultat sur les arrières allemands est un chaos absolument inimaginable. Ce choc opératif Oudar en russe est tellement violent, encore une fois, que je pense qu'ils auraient dû les amener à Berlin. N'eût été, malheureusement, ce que Staline n'a pas prévu, qui est la dissociation du moral de l'armée soviétique.
Donc en février, il y a une pause, je dirais, dans l'offensive. La dernière offensive n'aura lieu qu'en avril. Est-ce que cette dernière offensive est là aussi une illustration de l'art opératif russe ?
Là, vous posez une question extrêmement intéressante parce qu'elle l'est d'une certaine façon dans la mesure où on a aussi ce qui fait partie de l'art opératif, des offensives qui sont séquentielles. Mais je dirais que là, les soviétiques n'ont pas la profondeur. N'ayant pas de profondeur, il y a peu de choses dans le système à dissocier. La raison pour laquelle Staline choisit Berlin, c'est que pour lui, c'est la dernière noix à casser, c'est le cœur d'un système qui est déjà complètement délabré. Au fond, c'est l'estocade finale. Le gros a déjà été fait avant en Pologne, c'est ce que je montre, en janvier-février. Le système militaire allemand a été détruit. Il va se survivre au mois d'avril et au mois de mai. Les soviétiques vont porter l'estocade d'une façon d'ailleurs pas toujours très adroite pour des raisons politiques que je décris, qui se tiennent à la reprise en main par Staline de ses officiers, la mise en concurrence de Zhukov et Koniev, qui va avoir des résultats donc, qu'on a qualifiés de désastreux, mais il n'y a rien de désastreux au fond. Et globalement, cette dernière résistance des Allemands sur l'Oder, notamment sur les hauteurs de Zelo, ça se traduit par quoi ? Par un retard de 48 heures dans la planification soviétique.
Oui, mais les moyens mis en œuvre, on n'en a pas parlé, mais sont colossaux de la part de l'armée rouge.
Les moyens, oui.
Pour un résultat final qui allait être atteint, enfin d'après ce que vous écrivez, et on se dit, mais tout ce gâchis était-il vraiment nécessaire ?
Non. En réalité, si les soviétiques avaient vraiment voulu faire de l'opératif, je dirais, si les maréchaux avaient pu faire de l'opératif, ils auraient à la limite bypassé Berlin, le dépassant au nord et au sud, et auraient pu faire l'économie d'un assaut sur la capitale du Reich en essayant d'aller au plus vite. Mais là, il y a des contingences politiques qui interviennent et je dirais qu'à partir de là, ce qui est de l'ordre strictement militaire devient secondaire. Staline a un autre problème, c'est d'empêcher les Occidentaux de prendre Berlin et c'est ça qui va complètement modeler le tactico-opératif des Soviétiques en avril et mai 1945. Là, l'art opératif est en quelque sorte entre parenthèses.
Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Nous avons beaucoup parlé de l'art opératif et je voulais juste préciser à nos auditeurs, enfin vous avez peut-être en dire deux mots, c'est que cet art opératif est quand même, vous montrez que la pensée militaire russe à ce moment-là était de 50 ans en avance et surtout ça va influencer la pensée militaire américaine bien plus tard.
Bien plus tard, c'est le destin de cette pensée militaire soviétique est assez extraordinaire parce que inventé dans les années 20 et 30, muselé totalement par la répression stalinienne entre 1938, date de la Grande Purge, et novembre 1942. On la voit ressurgir à partir de novembre 1942, à partir de Stalingrad. Elle est mise, comme je le montre dans l'ouvrage, elle est mise en œuvre, mais avec des limites sévères imposées par le système stalinien. Il y a d'autres limites techniques qu'on n'a pas le temps d'invoquer ici. Et puis elle va être reprise dans les années 1965 par l'équipe Brejnev, qui va développer l'armée soviétique et en faire un instrument de combat extraordinaire. Dieu merci, elle n'a pas eu à nous le prouver, mais les Américains en ont pris conscience. Ils en ont pris conscience après la défaite au Vietnam et ils ont commencé à regarder de très près cette armée soviétique. Ils ont commencé à rejeter tous ces jugements péremptoires, extrêmement racistes et méprisants sur le fond, qui venaient de leurs conseillers issus eux-mêmes de la Wehrmacht. Et ils ont commencé à regarder par eux-mêmes ce qu'était cette armée soviétique et ils ont découvert l'art opératif. Ils s'y sont mis à fond. Et cet art opératif, très honnêtement, très pragmatiquement, ils ont reconnu qu'ils l'avaient emprunté à l'armée soviétique et ils l'ont intégré au Field Manual 105 de 1986, qui est finalement mis en œuvre en 1991 et en 2003 lors des deux guerres d'Irak par notamment la première, le général Schwarzkopf, qui a déclaré publiquement « Maintenant l'armée américaine doit se mettre à l'école de l'art opératif ». C'est le triomphe posthume de Zhukov, Koniev, Rokossovski et les autres.
Merci beaucoup Jean Lopez pour tous ces éclaircissements. Je recommande vivement la lecture de votre ouvrage Berlin, publié dans la collection Campagnes et stratégies aux éditions Economica. Au revoir à tous et à toutes.